butant vers le soleil couchant, suivi de ses amis qui ramaient tous en chantant.
J'ai un copain de parage chez moi, je le remercie. Il me rend bien des services. C'est un type très, très. Il s'appelle Satan. Thank you, Satan.
Ou dans le satin pour les enfants que tu ranimes. Au fond des dortoirs chérubins, pour leurs pétales anonymes, comme la rose du matin. Thank you, Satan.
Pour le voleur que tu recouvres, de ton chandail tendre et rouquin, pour les portes que tu lui ouvres, sur la tanière
des rupins, pour le condamné que tu veilles, à l'habit de montant l'air, pour le rhum que tu lui conseilles, et le mégot que tu lui sers. Thank you, Satan.
Pour les étoiles que tu sèmes, dans le remords des assassins, et pour ce cœur qui bat quand même, dans la poitrine
des putains, pour les idées que tu maquilles,
dans la tête des citoyens,
pour la prise de la Bastille, même si ça ne sert à rien. Thank you, Satan. Lolo.
Prêtre qui s'exaspère à retrouver le doux agneau, pour le pinard élémentaire qu'il prend pour du château Margaux,
pour l'anarchiste à qui tu donnes les deux couleurs de ton pays, le rouge pour naître à Barcelone, le noir pour mourir à Paris. Thank you, Satan.
Pour la sépulture anonyme que tu fis
à monsieur Mozart, sans croire ni rien sauf pour l'Afrique,
un chien croque-mort.
Du hasard pour les poètes que tu glisses au chevet des adolescents qu'on pousse dans l'ombre complice des fleurs du mal de 17 ans. Thank you, Satan.
Pour le péché que tu fais naître.
Tu se marres dans les castes. Nos cerveaux et s'agitent à l'envie pour nous défaire la vie. Ce triste, la vie serait moche alors. Alors
je fume, je bois et j'écris. Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéo et débat, livre et combat.
Monsieur.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le greffe comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Pas se faire d'illusions, mais c'est mieux debout pour l'action.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse. Autour du garrot.
Bonjour, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire. Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître. Et sans publicité sur 89,4 MHz. Et c'est l'émission Idéaux et débats du jour qui commence avec au programme plusieurs actualités. Tout d'abord, nous retrouverons François Ullery qui nous parlera de son recueil de nouvelles intitulé Mort de peu et qui est paru aux éditions du Lys Bleu. Ça, ce sera pour la partie purement fiction. Ensuite, nous fêterons un anniversaire. Ce sera les 20 ans des éditions L'Arbre Vengeur, et nous retrouverons David Vincent pour nous parler de cette maison d'édition qui est située à Bordeaux. Et enfin, je vous dirai quelques mots d'un film, ce qui n'est pas très courant dans cette émission, mais là, il s'agit de l'adaptation d'un roman que j'avais aimé, qui est un roman d'Amanda Sterz, et Amanda Sterz a porté à l'écran ce livre, donc nous en parlerons en fin d'émission. Nous retrouvons tout de suite François Ullery pour Mort de peu, paru aux éditions du Lys Bleu.
Pour mieux cueillir le temps qui passe. La mort m'attend comme une princesse à l'enterrement de ma jeunesse. Pour mieux pleurer le temps qui passe. La mort m'attend comme Carabosse à l'incendie de nos noces. Pour mieux rire du temps qui passe. Mais qui est-il derrière la porte et qui m'attend déjà? Ange ou démon, qu'importe, au-devant de la porte, il y a toi. La mort attend sous l'oreiller que j'oublie de me réveiller pour mieux glacer le temps qui passe. La mort attend que mes amis me viennent voir en pleine nuit pour mieux se dire que le temps passe. La mort m'attend dans tes mains claires qui devront fermer mes paupières pour vaut mieux quitter le temps qui passe. Mais qui est-il derrière la porte et qui m'attend déjà? En joue des mon qu'importe, au-devant de la porte il y a toi. La mort m'attend aux dernières feuilles de l'arbre qui fera mon cercueil pour mieux clouer le temps qui passe. La mort m'attend dans les lilas qu'un fossoyeur lancera sur moi pour mieux fleurir le temps qui passe. La mort m'attend dans un grand lit tendu aux toiles de l'oubli pour mieux fermer le temps qui passe. Mais qui est-il derrière la porte et qui m'attend déjà? En joue des mon qu'importe, au-devant de la porte il y a toi.
Toujours pour Radio Libertaire 89,4 MHz, c'est l'émission Idéaux et Débats, avec le plaisir de découvrir aujourd'hui un nouvel auteur. Il s'agit de François Eulry qui nous propose un livre que j'ai beaucoup aimé qui s'intitule Mort de peu et qui est paru aux éditions du Lys Bleu. Alors je dois dire que je n'avais pas lu ce livre et c'est une recommandation de Gérard Guégan qui fait une chronique dans cette émission, qui m'a amené à vous lire et à ce que nous nous rencontrions ce soir. C'est un livre qui m'a beaucoup touchée. On va dire un mot du titre d'emblée, François Eulry, Mort de peu, parce que le titre est extrêmement bien trouvé déjà.
Bon, effectivement, j'ai mis du temps à trouver ce titre. Enfin, du moins, je n'ai pas mis du temps à trouver ce titre. C'est vraiment à la fin de mes énièmes relectures de ces textes que je me suis dit que c'était ça qu'il fallait que j'écrive, parce que c'était des morts de tous les jours, donc des morts de peu, et puis c'était aussi des gens qui venaient de mourir ou qui allaient mourir, enfin qui, et donc le caractère peu était quelque chose de la condition banale de ces personnes, et deuxièmement du temps, il y a peu de temps qu'ils sont morts, et voilà, c'est comme ça que je les ai écrits.
Alors effectivement, c'est un recueil qui comprend donc six nouvelles qui ont toutes pour thématique la mort, qui est un sujet qui n'est pas franchement abordé de nos jours. Donc c'est important aussi d'en parler. Et alors les nouvelles, on va en y venir dans quelques instants, mais elles ont toutes une tonalité différente. C'est un choix de départ. Comment chronologiquement avez-vous conçu le livre? Comment ça s'est agencé? Comment c'est venu?
Alors ça s'est fait au fil du temps, au fil des deuils, puisque ce sont des gens de mon entourage, vous l'avez compris.
Oui.
Au fil de la survenue de ces deuils, que j'ai éprouvé le besoin, un moment ou un autre, d'écrire ce que je ressentais, ou ce qu'ils avaient ressenti à ce moment-là, ou ce que j'avais cru percevoir qu'ils ressentaient, et d'en faire un texte. Et ça a commencé. Alors, ça a commencé d'ailleurs de façon tout à fait lointaine d'un premier de cela. Vous avez vu que dans ce texte, il y a le brancardier Louis.
Oui.
Ce brancardier Louis, il est mort en 1957. Mais j'ai écrit ce texte en 1999 parce que une amie qui travaille dans l'édition, la fille d'un ami, jeune femme qui travaillait dans l'édition, m'avait demandé, pour je ne sais quel exercice, d'écrire un texte sur quelque chose qui me touchait. Et comme je rentrais d'un petit séjour à Mirecourt, pays de la lutherie,
oui,
j'ai pensé à mon grand-père que j'avais perdu quand j'avais 9 ans et que j'aimais beaucoup, et j'ai écrit le brancardier Louis. Voilà. J'ai mis du temps parce que je l'ai remanié avec le temps passant, je l'ai remanié. Ensuite, de quoi je l'ai fait lire à des gens de ma famille, à mon père en l'occurrence, et je me suis dit, tiens, pour ma mère, je vais écrire la mort de son père à elle, qui était mort en 64, c'est Jules,
oui,
la douleur de Jules. Et cette mort, là aussi, alors là, j'ai beaucoup extrapolé, j'ai été assez inventif, même si un certain nombre d'arguments sont très présents et sont très vrais, ce qui fait que je n'ai pas voulu l'appeler Jean comme il s'appelait, mais Jules, pour mettre une certaine distance avec la vérité. Enfin, j'ai un peu romancé cette histoire. Ça, comme vous voyez, ça s'étale sur le temps. Et puis ensuite, ça a été mon père qui est décédé en 2005. Alors là, tout de suite, j'ai écrit
le texte
sur mon père.
Oui.
2005, je l'ai écrit pratiquement tout de suite. Je l'ai peu remanié, mais je l'ai écrit assez rapidement, une quinzaine de jours, peut-être trois semaines, un mois, quelque chose comme ça. Mais je l'ai peu remanié par la suite. Et m'est venu le texte sur le décès de ma femme, vous l'avez vu, Christine. Alors là, il m'a fallu 8 ans pour y parvenir. Chaque fois que j'ai voulu me mettre à écrire quelque chose, je ne dépassais pas la première ligne, elle était mauvaise. Et il a fallu, je ne sais pas si je peux vous raconter tout ça, mais pour moi ça compte, il a fallu le décès de son père, que j'ai veillé jusqu'au bout, que j'aimais beaucoup, c'est un vieil homme que j'aimais beaucoup, que je l'ai veillé jusqu'au bout, il est mort quasiment dans mes bras, et on l'a enterré, je suis rentré chez moi, et j'ai écrit le texte sur ma femme. Il est mort le même jour que sa fille, à 8 ans d'intervalle. Et ça m'a beaucoup marqué. Et du coup, j'ai senti comme une libération, et j'ai écrit ce texte. Alors là, celui-ci, je l'ai pratiquement pas remanié, sauf à la marge, quelques modifications du plan, des choses comme ça, mais vraiment très, très à la marge. Quant au texte sur Thérèse, celui-ci m'est venu dans tout le temps où je construisais cette histoire. C'est une personne de ma famille relativement proche, qui a une histoire personnelle dramatique, dans le milieu de laquelle je me suis trouvé. Pour tout vous dire, Anne-Laure, qui est la petite jeune fille qui raconte ça, c'est moi. Ouais. Et donc je me suis trouvé un peu confronté à ça quand j'étais petit. J'en ai gardé un souvenir assez particulier, mais pas un mauvais souvenir, un souvenir comme ça, voilà. Bon, bref. Et j'ai écrit Thérèse. Dans Thérèse, j'ai raconté tout ce qui s'était passé. J'ai juste inventé un personnage qui est la religieuse.
La fille aînée, oui.
La fille aînée, je l'ai inventée parce que j'avais besoin de dans cette histoire que j'ai maquillée pour les différentes personnes qui sont concernées par cette histoire, volontairement je l'ai maquillée, mais elles se sont reconnues, mais elles acceptent que je sois maquillée comme ça. J'ai fait en sorte que j'avais besoin de quelque chose qui réponde à l'autre personnage central. Hélène, si je me souviens bien. J'avais besoin de quelque chose qui corresponde. Il y a une espèce d'antinomie en même temps de correspondance. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai pris des libertés avec certaines vérités. Quant à Émile de Montjouy.
Ah, Émile.
Alors, Émile de Montjouy, il est exactement tel que je l'ai connu. C'est exactement. Je l'ai connu d'un bout à l'autre. À un moment, je parle de Cinéma Paradiso,
oui,
vous avez vu.
Oui, oui.
Bah, j'ai vécu ça, moi, quand je mettais les photos avec lui, quoi. Il m'écartait des photos qui pouvaient être un peu sensibles. Je me rappelle en premier de Mélina Mercouri dans le Phèdre de Jules Dassin. C'était inouï. Il était exactement comme ça. Voilà. Donc, ça s'est étalé sur le temps parce que, ce sont des gens. Mais j'ai eu besoin d'écrire ça. Puis, j'ai fait lire ça à des amis proches, des gens de ma famille. Ils m'ont dit, mais pourquoi tu le publies pas? Je ne veux pas publier ça. Qui ça va intéresser, quoi? Et puis, voilà, je me suis renseigné sur des gens qui acceptaient de publier des nouvelles, ce qui n'est pas très fréquent en France, à la différence de ce qui se passe en Angleterre, oui, en Grande-Bretagne ou en Allemagne. Je pense aux nouvelles. J'aime beaucoup Heinrich Böll, l'écrivain allemand, qui écrit beaucoup de nouvelles. Et donc, je me suis dit, ils me l'ont accepté, ou ils l'ont un mois après, ils me donnaient leur accord, et j'étais très heureux. Voilà, vous savez tout.
Eh bien, c'est une belle aventure parce que ces textes sont forts et on évoquait donc ces morts de peu, mais chaque texte est différent et c'est ça aussi qui fait la richesse parce qu'on n'est pas dans la répétition de la description des morts, des personnages que vous avez évoqués. Parfois, j'allais dire, la mort n'est que subsidiaire d'une certaine manière. Parce que ça peut être, je pense par exemple à Jules, donc la demeure de Jules, c'est un homme qui va vivre avec une mort toute sa vie, avec un traumatisme, guerre. Il a été amené au front à tuer à coup de baïonnette un Allemand et on va le voir durant sa vie, alors jusqu'à sa mort effectivement, mais c'est une mort qui le hante. La mort est présente, mais de son vivant.
Oui, c'est d'abord, tous ces textes pour moi tournent autour de la vie. La mort n'est qu'un prétexte à expliquer la vie de ces gens. La raison pour laquelle les textes sont différents, parce que ces personnes sont différentes et que j'ai essayé de coller aux situations qu'ils ont connues et aux rapports que je pouvais avoir avec eux, qui n'étaient évidemment pas les mêmes entre d'un personnage à l'autre. C'est flagrant pour Émile de Montjouy, c'est flagrant pour Christine sous de vastes portiques. L'idée en ce qui concerne Jules, la demeure de Jules, il vit ce que les médecins, les psychiatres ont eu, appellent une névrose post-traumatique. Oui. Guerre, quoi. C'est exactement ça. Et je peux vous dire que je n'ai réalisé cela. J'ai souvent pensé à la mort de cet homme et quelquefois à ses excès un peu d'alcool, qui n'étaient peut-être pas aussi importants que je les ai caricaturés, mais qui existaient quand même. Et je savais qu'il avait ça en tête, cette histoire, ça avait été raconté par son frère, qui était peu bavard, mais qui m'avait raconté ça. Au début où je faisais médecine, il m'avait raconté ça. Et j'ai compris, il y a seulement quelques dizaines d'années, 15 ans, 20 ans peut-être, ou même pas 20 ans, qu'en fait, il souffrait de ce syndrome post-traumatique. Quoi. Il en avait toutes les marques, tous les symboles, tous les symptômes. Et c'est quelque chose d'ahurissant que on connaissait pas ça. Pourtant, la guerre de 14 avait donné son lot de troubles psychiatriques. Mais ça fait rien, personne n'a jamais fait le diagnostic, personne n'y a jamais pensé, et ce n'est que moi, il y a une quinzaine d'années, qui me suis mis ça en tête, et c'est d'ailleurs là que je l'ai écrit.
Alors, c'est vrai que c'est une névrose post-traumatique, qu'on va le suivre donc avec cette histoire, avec cette obsession tout au long de sa vie, et ouais. J'allais dire, il y a les deux histoires se répondent d'une certaine manière entre Jules et Louis, justement.
Oui.
Puisqu'on est dans cette même ambiance de comment, oui. Comment traverser la guerre, comment en sortir. Et Louis, lui, c'est autre chose. Lui, il est atteint. Alors, comme on l'évoquait tout à l'heure, il est luthier.
Il aurait voulu être luthier. Il a été.
Oui, il a fait son premier violon.
Oui, c'est ça, voilà.
Voilà. C'est important le fait qu'il ait ce violon. Et il ouais. part à la guerre, il est dans les tranchées. Et il va être horriblement mutilé, comme l'ont été beaucoup des soldats de la Première Guerre mondiale. Mais moi, ce qui m'a touché profondément dans cette nouvelle, c'est aussi l'écriture que vous avez choisie pour parler de cette ambiance absolument terrible et de ce drame, parce que c'est une écriture justement musicale.
Oui, mais ça, c'était aussi voulu. Hein. J'avais besoin de la référence à la musique pour... La référence à la musique pour écrire Louis, c'était un homme peu bavard, peu disert, avec un grand sourire, quelque chose de très émouvant dans ce qu'il était. Et en même temps, il y avait toujours de la musique qui traînait. Sa femme était musicienne. Mon père, son fils, était musicien. Ma mère, leur belle-fille, était musicienne. Enfin, tout le monde est musicien dans ma famille, sauf moi. Et j'ai baigné là-dedans. Et pour moi, la mort de Louis et cette façon de s'accrocher à la musique dans sa tranchée, là où il est blessé, où il s'est fait un garrot de fortune là, parce qu'il a perdu la moitié de sa jambe. La musique est un raccord, quoi. Ouais. Enfin, une sauvegarde, enfin, quelque chose comme ça. Quoi.
Mais dans l'ensemble des textes, la musique est extrêmement présente.
Oui.
Tous les personnages évoquent. D'ailleurs, on en discutera par rapport au choix des musiques qui vont illustrer cet entretien, parce que le choix est difficile tellement il y en a.
Oui, je comprends.
Alors moi, j'aime beaucoup ce personnage du brancardier Louis qui m'a beaucoup touchée. On va laisser nos auditeurs et futurs lecteurs le découvrir. Mais toujours dans la mort un peu cachée, c'est ce qu'on évoquait avec justement Émile de Montjouy, parce qu'effectivement, Émile va mourir, mais il est tellement vivant qu'on a l'impression que même mort, il est encore vivant. C'est un personnage du Sud avec toutes ses caractéristiques, ses qualités et ses défauts. Et c'est vrai que ce personnage fait partie du décor, et les décors sont également très, très importants dans ce livre. Il y a le Sud et il y a la région de Metz qui reviennent de manière récurrente. Et oui. on s'aperçoit que dans ce Sud, ce personnage d'Émile ne pourrait pas exister ailleurs que là.
Non, mais on est bien d'accord. J'imagine mal ce brave oncle Émile, mon grand-oncle, en Lorraine. Il se trouve que je suis biculturel, puisque je suis d'origine lorraine à moitié et languedocienne, de la plaine languedocienne l'autre moitié, et que la rencontre de ces deux familles est assez pittoresque, a toujours été assez pittoresque, parce que quand ce brave Émile venait nous rejoindre en Lorraine, il était un peu dépassé par les événements. Et il a vu plein de choses intéressantes, mais enfin... C'est un homme du Sud, il se demandait ce qu'il faisait là-haut, quoi. Voilà. C'est vraiment un homme du Sud, un personnage à dodé un peu, enfin, quelque chose comme ça. Il a quelque chose de Tartarin de Tarascon,
d'ailleurs. Ah oui, enfin, il est tout le temps dans l'outrance et dans la mauvaise foi, mais c'est ce qui fait son charme et c'est ce qui fait...
Ah ben oui, je peux vous dire qu'il avait, en permanence une cour d'admirateurs autour de lui, de ses affidés, enfin je parle d'eux, d'ailleurs je les décris, hein. Il était incroyable, quoi. C'était vraiment... C'est un homme qui m'a marqué parce que il était complètement adapté à son milieu, quoi. Enfin, je veux dire, il vivait dans un petit village de campagne tout près d'Agde, et dans ce village-là, il y avait un petit lieu dit qui s'appelait Montjouy, une petite pitertre avec un cyprès planté dessus, une encablure du cimetière. J'ai pas pu l'appeler autrement qu'Émile de Montjouy, quoi, parce que vraiment, ce lieu s'appelait Montjouy. Il en parlait tout le temps et je trouvais que ça lui allait bien. Ce Montjouy, c'était vraiment... Voilà, c'est comme ça. Et pourtant, vous l'avez vu, qu'il était marqué profondément d'un deuil terrible qu'il a traîné toute sa vie. Quoi. Ouais, ouais. C'est aussi quelque chose qui fait partie du paysage pour Émile. Quoi.
Tout à fait.
La mort de sa fillette de 5 ans, là, ça... Il ne donnait pas du tout l'impression... Comme il est toujours en train de blaguer et de bambocher, il ne donnait pas l'impression de ça, mais... En réalité, il y avait ça, quoi.
Mais justement, ce qui est intéressant, François Ulrich, dans ce texte, c'est que vous montrez à quel point les morts nous accompagnent et comment on peut vivre avec eux. Ce qui est le cas d'Émile.
Je crois que c'est ça. Les morts nous accompagnent. Et Émile était accompagné de la mort de sa fille, bien sûr. Bien sûr. Et voilà, c'était vraiment un personnage, Émile. C'est une sorte de monument. S'il y avait un monument à faire dans le village, je ferai un monument pour Émile, quoi. Non pas pour le plaisir d'avoir un monument d'Émile, mais parce que il me semble symboliser complètement l'esprit de cette région, la truculence, la bonne chair, le soleil, la vigne. Enfin voilà, c'est quelque chose. Voilà.
Oui, tout y est.
Oui. C'est comme ça que je le vois, en tout cas.
On va laisser nos auditeurs découvrir Émile. Et si vous voulez bien, on va parler de ce premier texte qui est Christine sous de vastes portiques. C'est un texte d'une tonalité, déjà c'est celui qui ouvre le recueil, et c'est un texte d'une tonalité particulière parce que pour celui-là, vous utilisez le « je », vous parlez à la première personne. Et du coup, ça donne une force absolument terrible. Et la question qui ressort de ce texte, c'est qui dira la souffrance de ceux qui meurent. Et à partir du moment où Christine parle et dit « je », eh bien, on est dans cette intimité-là, avec la mort.
Oui. Alors, ce « je », je ne l'ai pas cherché, je n'ai pas voulu faire un effet littéraire. J'ose dire, vous allez peut-être être étonné, il m'est venu spontanément. Je vous ai dit que je n'avais pas pu écrire sur elle, alors que je le voulais depuis 7-8 ans, et qu'il a fallu la mort de son père, qui lui avait caressé la joue pendant 24 heures, pendant qu'elle disparaissait, là. Il a fallu la mort de son père pour que j'écrive ce texte. Et tout naturellement, sans aucun artifice, je me suis trouvé à écrire « je ». C'est quelque chose que je n'arrive toujours pas à m'expliquer, mais que je n'ai pas pu changer. J'ai essayé à un moment, je dis « je ne peux pas faire ça, c'était pas possible ». c'était pas possible. Et j'ai donc gardé le jeu. Qui tout le long, c'est elle qui parle, c'est elle qui meurt, c'est elle qui parle, qui raconte sa vie, notre vie. C'est elle qui parle. Et je continue à penser que je ne pouvais pas faire autrement que d'écrire « je ». Mais je vous le répète, c'est peut-être curieux à dire, moi-même je me rends compte de l'énormité que ça peut représenter peut-être pour certains. Ça m'est venu spontanément et je suis incapable de faire autrement qu'en pensant à elle que de dire « je ». Voilà.
Ça fait toute la force du texte et en plus de ça, ça permet d'aborder ce qu'on aborde rarement, c'est-à-dire l'intimité de la personne parce que on parle de le je parle de Christine parle de musique, parle de l'importance de Baudelaire, des fleurs du mal qui sont toujours sur sa table de chevet, tous ces petits détails qui sont tellement du quotidien et que parfois les proches ne le voient même plus.
C'est ça. Vous parlez des fleurs du mal qu'elle avait sur sa table de chevet depuis des années, dont elle savait des vers entiers par cœur. D'ailleurs, quand elle, les dernières semaines, elle trouvait qu'elle avait du mal à mémoriser certaines choses, elle se récitait des strophes de Baudelaire, elle en apprenait de nouvelles. Enfin, vraiment, ça l'a beaucoup marqué, les fleurs du mal. Et de même que dans une période difficile, un peu plus difficile de sa vie, elle s'écoutait en boucle le Requiem de Forêt, et quand elle est allée mieux, elle a arrêté, quasiment arrêté. Du moins, elle l'a vu autrement, elle l'a pris avec distance, quoi. C'est quelque chose, voilà, c'est, là encore, c'est la musique. Et la musique, elle aimait beaucoup la musique. Elle était, curieusement, une musique, elle n'était pas très, très mélomane quand je l'ai connue. Je l'étais sans doute un peu plus qu'elle, parce que j'avais quelques années de plus qu'elle. Mais très vite, elle a accroché à la musique et c'est devenu, toutes les musiques, elle était très, très éclectique. Et voilà. Et donc, le Requiem de Forêt l'a accompagnée un temps dans sa vie. Les fleurs du mal, beaucoup plus longtemps. Et c'est pour ça que je l'ai appelée Christine sous de vastes portiques à cause de Baudelaire.
Bien sûr. Alors, l'histoire de Christine, c'est une histoire tristement ordinaire, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'une femme dont on va diagnostiquer l'existence d'une tumeur cérébrale trop tard.
On l'a diagnostiquée 4 jours avant sa mort.
Ouais, voilà, et donc la mort est là. Sans avoir fait véritablement de dégâts en chemin, parce qu'elle est venue trop vite, et donc elle meurt intacte.
C'est ça.
Et donc vous nous emmenez dans cette proximité de fin de vie qui se termine sans qu'on s'y attende et très très rapidement.
Oui, je n'ai rien vu venir, elle non plus, sauf les derniers instants, les derniers jours. Les 15 derniers jours maximum. Ça s'est fait comme ça, c'est une tumeur extrêmement silencieuse et très envahissante, ce qui d'ailleurs prouve une certaine plasticité du cerveau et des fonctions principales du cerveau, parce que dans l'occurrence, finalement, elle n'avait plus de dégâts. C'était le cerveau droit, elle était droitière, donc finalement, c'est le cerveau de la musique, justement, celui des émotions, celui... Bref, c'est éteinte comme ça, avec un courage inouï, parce que parfaitement lucide, jusqu'à ce que les 24 dernières heures, elle était dans le coma, donc la lucidité était forcément altérée. Mais jusque-là, elle était parfaitement lucide, elle a pu faire ses adieux à nos proches, aux enfants, aux amis proches, avec un courage. Elle fut étonnante, mais toute sa vie, elle était comme ça. Une jeune femme discrète, extrêmement, extrêmement attentive aux autres, modeste, et qui faisait vraiment l'unanimité autour d'elle dans tous les milieux qu'elle croisait ou qu'elle fréquentait. Elle faisait vraiment l'unanimité autour d'elle par justement ses qualités d'une grande humanité et d'une grande simplicité. Et voilà, c'est une petite femme de peu. Voilà, le mort de peu,
oui. Alors, on ne va pas dévoiler tout le livre, mais ce qu'on peut dire par contre quand même, François Ullery, c'est que autant là, c'est la chronique d'une mort annoncée, brutale, mais annoncée, et qui va se produire en quelques jours, autant pour le texte suivant, enfin que vous avez volontairement mis juste après, Le choix de mon père, là, c'est une mort inattendue.
Inattendue, absolument. Dans un contexte quand même de pathologie, de malade. Il avait un cancer. Semblait l'intervention s'était bien passée, on était passé au large, on avait l'espoir, il avait 86 ans, on avait l'espoir que ça puisse durer encore quelques temps. Sauf sans cette embolie pulmonaire qui l'a emporté brutalement et qui est donc une mort tout à fait inattendue. Mmh. Ouais, tout à fait inattendue. C'est d'ailleurs ce qui fait le bouleversement, ce qui fait l'état de sidération dans lequel je me suis retrouvé quand j'ai appris son décès. Je le dis dans le texte, hein, j'avais l'impression d'être ailleurs, que c'était pas moi qu'on avait dit que mon père était mort, parce que d'ailleurs mon père, j'avais vu la veille au soir, il allait bien. Donc c'était pas possible. J'ai vraiment eu cette espèce d'impression de dédoublement du c'est je est un autre.
Oui, quoi, oui, la dissociation
de Rimbaud. Oui, là. Oui. Mais j'étais vraiment dissocié, ça je peux en témoigner. J'ai vécu pendant quelques heures, deux, trois heures, deux heures. Et puis je sais pas si le coup de fil du chirurgien qui m'a fait un déclic, c'était 10 heures du soir, et là je suis redescendu sur terre, j'ai réalisé que mon père était mort, etc. C'est quelque chose de particulier. L'autre chose que j'ai trouvé étonnante, c'est ce grand passage au funérarium là ultra moderne dans une grande ville du sud là, le funérarium où on vous donne pas une urne, on vous donne un œuf de Pâques. Quoi. Ouais, c'est quelque chose. J'aurais jamais imaginé une chose pareille. J'aurais jamais pu écrire une chose pareille. Enfin, je l'aurais fait pour rire. J'avais ça dans les mains, c'était un œuf de Pâques.
C'est très lourd.
C'est ahurissant. Quoi. Et c'était mon père qui était là. Quoi. Enfin, c'est quelque chose. Et puis on le range dans le coffre de la voiture parce qu'il était incinéré. On le range dans le coffre de la voiture pour l'emmener là, à sa dernière demeure. Là. C'est quelque chose. Enfin, tous ceux qui sont passés par là doivent avoir chacun l'expérience personnelle de ce trajet. Mais moi, j'ai vécu ça comme, à la fois comme très pathétique et très drôle. Il faut dire que j'avais acquis avec mon père une complicité importante qui tournait autour des blagues. Lui et moi avions chacun notre humour et quelquefois on le faisait concorder, heureusement. Et j'ai vécu ça comme une blague. D'ailleurs, là aussi, le choix du tombeau, puisqu'il y en avait deux possibles, le choix du tombeau, aller choisir celui de son arrière-grand-mère qui s'appelait de Saint-Sulpice, toute sans culotte qu'elle était. Je trouvais ça extraordinaire et ça me faisait penser au bouquin de Boudard que je lui avais fait lire, qui m'avait fait lire, où il y avait Madame de Saint-Sulpice qui tenait une maison très accueillante. Moi, ça m'a fait rire. Mon père me manque énormément, à manquer surtout des rires que nous avions, parce que nous blaguions tout le temps. Il était très sérieux derrière sa Légion d'honneur, moi aussi d'ailleurs, et en même temps, on n'arrêtait pas de blaguer. Quoi. Voilà, c'est quelque chose de particulier. Thank you.
s'appelle « Mort de peu », c'est de François Ullery, c'est paru aux éditions d'Ulysse Bleu. Question rituelle dans cette émission maintenant, c'est de savoir est-ce que vous allez continuer d'écrire après celui-là qu'on peut recommander à nos auditeurs.
Oui, alors il y a un autre roman, il y a un roman que j'ai publié un an avant celui-là, oui, qui s'appelle « La messe allemande », que j'ai publié au Cherche Midi, qui est un roman assez particulier, qui dans une ambiance de confinement, il a été publié juste à la sortie du deuxième confinement, dans une ambiance de confinement, un camp de prisonniers pour officiers français en Allemagne, une histoire de mensonges, de repli sur soi, de regrets, de remords, de punition. Enfin, c'est une histoire assez sombre, mais en même temps qui se dénoue à la fin de manière un peu plus ouverte. Et qui est, voilà, que j'ai beaucoup aimé écrire ce livre. Et puis, je suis là pour tout vous dire, je suis installé à mon ordinateur où j'écris un autre roman en ce moment. Voilà.
Eh bien, j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver pour en parler. En attendant, bah, vous pouvez lire ces ouvrages. Merci François Ullery d'avoir accepté cet entretien.
C'est moi qui vous remercie beaucoup de la chaleur de cet entretien. Merci.
Merci.
Au revoir.
Seul jette un froid aussitôt qu'il est dit. Les gens du show business vous prédiront le bide. C'est un sujet tabou pour poète maudit.
Je la chante et dès lors, miracle des voyelles, il semble que la mort est la sœur de l'amour. La mort qui nous attend et l'amour qu'on appelle, si lui ne vient pas, elle viendra toujours. La mort, la mort, la mienne n'aura pas comme dans le Larousse un squelette, un linceul, dans la main, une faux. Mes filles de 20 ans, à chevelure rousse, en voile de mariée, elle aura ce qu'il faut. La mort, la mort, de grands yeux d'océan, une voix d'ingénue, un sourire d'enfant sur des lèvres carmin. Pèsera sur sa poitrine nue, des paupières brûlées, ma gueule en parchemin. La mort, Requiem de Mozart, et non dans ce macabre,
pauvre valse musette au musée de Saint-Saëns. La mort, c'est la beauté, c'est l'éclair vif du sable, c'est le doux pain total de l'esprit et des sens. Et n'allez pas confondre et les faits et la cause. La mort est délivrance, elle sait que le temps quotidiennement nous vole quelque chose. Dedans, la mort, la mort. Elle est euthanasie, la suprême infirmière. Elle survient à temps pour arrêter ce jeu. Près du soldat blessé dans la boue des rizières, chez le vieillard glacé, dans la chambre sans feu. La mort, la mort. Le temps, c'est le tic-tac monstrueux de la montre. La mort, c'est l'infini dans son éternité. La mort.
Voilà, c'est toujours Radio Libertaire, toujours idéaux et débats. C'était François Ullery, donc, pour nous parler de son recueil de nouvelles, Mort de peu, paru aux éditions du Lys Bleu. Et dans quelques instants, nous allons changer d'univers, puisque, enfin, quoique nous allons aussi parler de nouvelles, nous allons donc discuter avec David Vincent à propos du 20e anniversaire des éditions de l'Arbre Vengeur. On retrouve tout de suite donc cette chronique. Radio Libertaire, et c'est avec grand plaisir aujourd'hui qu'on discute avec David Vincent à propos d'une maison d'édition qui fête ses 20 ans et que je ne connaissais pas, comme quoi, voilà, mea culpa, mea culpa. C'est Jean-Marie Laclavetine qui m'a fait découvrir votre maison qui s'appelle les Éditions de l'Arbre Vengeur, très beau nom, et à l'occasion de la publication de la reprise de nouvelles qu'il avait écrite il y a quelque temps, qui était déjà sortie et qui ressort dans une petite brochure qui s'appelle Jean. Ça en vente au prix de 6 euros, c'est pas cher. Et on va donc parler des éditions de l'Arbre Vengeur qui publie ce petit opus. Et moi, je dois dire que je vous ai découvert ainsi, j'ai découvert l'éclectisme de vos publications. Le fait que les livres sont chouettes, ils sont beaux, ils ont des couvertures magnifiques. Donc, si vous voulez bien, nous allons parler donc de cette aventure dans laquelle vous êtes deux et avec des choix qui sont les vôtres. Et ce qui n'est pas fréquent dans le monde de l'édition, parce que j'ai l'impression que vous faites plaisir et ça, c'est bien.
Eh bien, bonjour. Merci beaucoup en tout cas de nous accueillir. Alors, je dis nous, on est deux.
Oui.
Mais mon associé travaille pendant la journée. Moi, je suis le seul à m'occuper de la maison d'édition toute la journée. Lui, il a un boulot pour faire mouillir la marmite. Voilà, donc on s'est réparti la tâche. Moi, je suis le bavard et lui, c'est l'artiste. Voilà. Alors, on a commencé il y a 20 ans. On avait chacun notre métier à l'origine. C'était vraiment notre loisir, la maison d'édition. C'était l'espace un peu de liberté. Moi, j'étais libraire, donc je vendais surtout les livres des autres. J'en ai surtout parfois des mauvais livres ou des livres pénibles. Et on s'était dit avec mon associé, qui lui est graphiste, que ce serait bien qu'on ait notre petit endroit à nous où on pourrait faire ce qu'on veut. On n'aurait pas de patron et on pourrait éditer les livres qui nous plaisent, même si, a priori, ils ne peuvent ne concerner que très peu de gens. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a créé notre petite collection. Alors, on a commencé au début de façon très, très humble. On faisait même les livres à la main, on les cousait nous-mêmes.
Ah ouais?
Voilà. Donc, on faisait des sérigraphies, on les cousait. Voilà, c'était une façon de voir si on pouvait tenir le coup. Donc, c'était vraiment du bricolage. Comme moi, à côté, j'étais dans une grande librairie. Ça me permettait de faire une sorte d'artisanat à côté d'un travail où je voyais passer vraiment le best-seller, du livre de grande consommation. Voilà. Donc, c'était une façon peut-être pour nous de nous réapproprier un peu un espace à notre dimension, un espace de liberté. Et c'est parti comme ça il y a 20 ans. Et puis, depuis 20 ans, ça dure. Voilà. Donc, comme quoi, une sorte. Ça démarre presque sur une blague et ça continue pendant 20 ans et maintenant on est toujours là.
Oui,
et
puis vous avez quand même un rythme assez soutenu en termes de nombre de publications.
Alors oui, normalement les petites maisons doivent assez peu publier, on les cantonne à une petite production. Ouais. Nous, on a plus de 20 par an.
C'est énorme.
On se dit que tant qu'on a la santé, on le fait. Ouais. Et puis il y a tellement, tellement de choses à faire. Alors on ne peut pas en faire tellement plus, hein, parce qu'on n'est que deux. Moi, je travaille à plein temps là-dedans, mais et puis il faut pouvoir s'intéresser à chaque livre, hein, voilà. Mais on a une vingtaine de livres, sachant qu'on a des petites collections, hein, notamment des collections de poches, qui sont des reprises de livres, donc le travail n'est pas tout à fait le même. Hein. Et puis, on n'est pas un éditeur classique dans la mesure où on fait beaucoup de rééditions.
Oui.
Donc, on reprend des livres sur lesquels une grande partie du travail éditorial a été fait. Donc, c'est pas la même chose que si on éditait 20 pures nouveautés par an. Hein. On est ce qu'on appelle en grande partie un rééditeur. Et le livre de Jean-Marie Laclavetine, c'est une illustration. Hein, c'est-à-dire que notre maison d'édition, un de nos grands plaisirs aussi, on s'est créé comme ça, c'était d'aller chercher des livres, parfois un peu passés entre les mailles du filet, oubliés, ou alors qu'on s'étonnait de ne pas trouver, pour leur redonner une vie, puis une forme qui serait un peu différente. C'est-à-dire que, hein, vous l'avez souligné, on essaie de faire des livres assez jolis.
Ah oui, c'est beau.
Quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire. Alors, au bout de 20 ans, on est peut-être un peu plus sage, mais on essaie de toujours continuer à se distinguer. C'est-à-dire, comme on est une toute petite maison, il faut qu'on ait quelque chose qui nous distingue. Et alors, nous, on a pris le parti de faire des livres colorés et puis de ne faire que des bons livres.
Oui.
Ce qui n'est pas évident, hein, de faire que des bons livres. Voilà.
Oui, oui.
Et Jean-Marie de la Clavetine, alors là, ça pourrait être presque un peu inattendu de sortir la Clavetine. Moi, je suis un lecteur de la Clavetine depuis toujours, hein, c'est-à-dire que depuis longtemps, parce que j'étais très fidèle à la collection dans laquelle il était édité, qui était l'édition Le Chemin. Vous savez, quand vous êtes étudiant, vous fixez comme ça sur des maisons d'édition. Et je lisais à peu près tout ce qui sortait de cette collection. Et j'ai découvert comme ça Jean-Marie Laclavetine, découvert aussi qu'il était bordelais, comme nous. Mm-hmm. Et donc, je lis depuis toujours. Et j'aime vraiment beaucoup son ton, sa capacité à avoir une gamme assez incroyable. C'est-à-dire, il arrive à être à la fois très classique et en même temps très mordant. Il arrive à être très à pouvoir susciter une émotion et en même temps à manier une ironie assez assez impitoyable, voilà. Il a plein de cordes à son arc et j'ai souvent remarqué qu'il y a peut-être beaucoup d'injustice envers la Clavetine, qui est un grand éditeur. Et que c'est souvent le cas avec les grands éditeurs, on minore un peu leur travail de romancier,
tout à fait.
Même s'il avait beaucoup de succès, hein, comme si c'était quelque chose en plus. Alors lui, c'est vraiment un très grand écrivain, un très très bon écrivain. Et alors, moi, il y a un de ses recueils que j'avais beaucoup aimé, il y a longtemps, qui s'appelait Le Rouge et le Blanc.
Dont sont issus les...
Voilà, hein, qui étaient des nouvelles consacrées exclusivement au vin, enfin à la boisson, voilà. Une thématique, donc un recueil de nouvelles thématiques. On est très très amateur de nouvelles, alors Vengeur, qui est un genre, alors le genre désespérant par excellence, que personne n'en lit. Et j'étais très étonné que le livre soit plus disponible, que Le Rouge et Blanc soit même plus disponible en poche. Et donc comme on a créé une petite collection en dernier qui s'appelle Livres de caisse, qui sont des petits livres, là où je me moque un peu aussi des libraires, hein, gentiment, qui est... Les libraires ont tendance à mettre à la caisse des petits livres, ce qu'ils appellent les livres de caisse, hein, en espérant que l'achat d'impulsion finale provoquera voilà, une sorte d'envie chez le consommateur. Et donc on s'est dit, ben, nous on va faire nous-mêmes nos livres de caisse, mais ce sont des livres de caisse, donc des livres à boire au comptoir. Et donc l'idée c'est de prendre des livres autour de la thématique de l'alcool ou de la limite, quoi, etc. Et comme j'avais en tête ce génial recueil de Jean-Marie Clavetine, on en a choisi deux petites nouvelles. On a négocié avec Gallimard, hein, puisque c'est Gallimard qui a le droit, pour avoir le droit de les sortir et de les mettre en avant. Et il y en a une qui s'appelle Jean, que je trouve vraiment géniale. Et j'aimerais vraiment que des gens qui n'ont jamais lu la Clavetine la lisent, qui est quand même la plus géniale histoire de cuite qu'on ait jamais écrite, quoi. C'est bien, voilà. Et la deuxième, il est très bon là-dedans, Jean-Marie, qui sont des espèces de pseudo nouvelle policière un peu réaliste, où il y a toujours sa touche à lui qui est vraiment très personnelle, cette façon de dire des choses atroces avec une langue très très aiguisée, hein, très 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 simple, même si c'est hyper glauque, voilà, c'est une sorte de pêcheur qui va se retrouver embringué et pris en otage par deux abrutis, il va tenter de s'en sortir comme ça.
Nous sommes là, entre nous tous les deux, seul à seul, tête à tête, et les yeux dans les yeux. J'avais tant à te dire, mais par où commencer? Deux verres, une bouteille, je crois que j'ai trouvé. Le vin délie la langue, il entr'ouvre le cœur, il donnera ce soir le ton et la couleur. Au jardin de la braise et cristal du désir, à notre nuit d'amour, buvons pour le plaisir. Qu'il soit de Blaye ou d'Echeronne, de Vaqueras ou de Tursan, le vin réjouit le cœur de l'homme et de la femme, évidemment.
Qu'il soit de Blaye ou d'Echeronne, le vin réjouit le cœur de l'homme.
D'une âpre Syrah, d'un peu de Carignan, d'une terre solaire, des mains d'un paysan. C'est avec ce vin-là qu'on dit qu'Ulysse a mis le cyclope à genoux et Circé dans son lit. Le vin délie les sens, il entr'ouvre les draps, et pourtant sous sa coupe, je ne mentirai pas. Je bois, moi, pour le goût, mais aussi pour l'ivresse. Pour cette nuit d'amour, soyons donc sans sagesse. Les joues vermeilles, les yeux qui brillent, chavirent et partent de doux émoi. Le vin réjouit le cœur des filles et des garçons, ça va de soi.
Les joues vermeilles, les yeux qui brillent, le vin réjouit le cœur des filles.
Noé sur son raffio en prit quelques futailles aux noces de Cana, au milieu des ripailles. C'est ce vin que Jésus fit d'une ordinaire, et notons qu'il n'a pas eu l'idée du contraire. Le vin délie les âmes, il entr'ouvre le ciel de sa petite messe gourmande et solennelle. Prions Saint-Émilion, Saint-Estèphe et les autres, pour une nuit d'amour, voilà de bons apôtres. chant Te Deum, vin du cantique et sang divin. Le vin réjouit le cœur de l'homme, du Père, du Fils, de l'Esprit Saint.
Le vin réjouit le cœur de l'homme.
Le vin comme l'amour, l'amour comme le vin, qu'il soit impérissable, qu'il soit sans lendemain. Qu'il soit bourru, tranquille, acerbe ou élégant, je suis sûr qu'il ne faut pas mettre d'eau dedans. Oh, ne partageons pas ces amours qui s'entêtent, pas plus que ces vins-là qu'on boit pour l'étiquette. Tu es ce que tu es, je suis comme je suis. À notre vie d'amour, buvons jusqu'à la lie. Taisons-nous et voyons comme finit cette nuit attendue.
Mais taisons-nous et voyons comme le vin réjouit le cœur de l'homme.
Le vin réjouit le cœur de l'homme et puis le mien, bien entendu.
Alors, ça, c'est pour Jean-Marie Laclavetine que on peut, oui, que je conseille tout à fait, parce que moi, je suis une fan aussi de Jean-Marie Laclavetine. On l'avait reçu pour Le Rouge et le Blanc, de toute façon, on le reçoit pour quasiment chacun de ses livres, et c'est un bonheur de lecture. Mais je voudrais revenir sur l'importance d'être un rééditeur. Je crois que c'est comme vous l'avez évoqué, c'est une bonne chose, parce que moi, j'ai regardé ce que vous faisiez et je me suis dit, oh, Jean Ray. Ça fait combien de temps que je n'ai pas lu Jean Ray ? Et c'était un vrai plaisir de découvrir que vous republiez Jean Ray.
Oui, alors en fait, c'est ça notre chance d'avoir une maison d'édition, c'est de se dire, de se permettre des plaisirs. C'est-à-dire que nous, on est des gros lecteurs. Moi, je suis un lecteur invétéré, je lis depuis très très longtemps. Hein. Et le fantasme pour un éditeur, comme on l'est, c'est de faire entrer dans notre catalogue des auteurs qu'on adore. Et il y en a certains, c'est absolument impossible. Ils sont trop importants ou trop bizarres. Et puis il y en a d'autres, on essaie de se donner les moyens et de se faire plaisir. Et donc régulièrement, on tombe le coup. Hein. C'est-à-dire que l'an dernier, on a par exemple réédité André Dautel,
qui est un auteur
que j'adore depuis que j'ai 12 ans. C'était André Dautel, c'était l'émerveillement de jeu de Genève. Enfin, je me souviens de tout, c'est il y a 50 ans. Enfin, j'étais. Et puis on s'est dit un jour, pourquoi on ne ferait pas un André Dautel? Et puis dans ces cas-là, vous écrivez à la famille, et puis il se passe quelque chose ou pas, et on a fait un André Dautel, avec la grande surprise de se rendre compte qu'en fait c'était assez attendu et que ça a été un très joli succès. Et en fait, Jean Ray, c'est pareil. Jean Ray, alors vous voyez, chaque livre qu'on réédite a une petite histoire, un lien avec quelque chose. Hein. Je parlais d'Dautel, mais Jean Ray, j'ai hérité d'un seul livre de mon grand-père, qui en avait plein, j'ai hérité de plein de livres. Toute la collection du Masque, donc des livres orange, des quantités industrielles, je ne sais pas où les mettre, il en lisait un par jour, et au milieu de tout ça, il y avait les derniers contes de Canterbury de Jean Ray, qui est un livre qui m'accompagne donc depuis des dizaines d'années. Il est dans un état mais absolument lamentable. C'est un vieux marabout qui tient par rien du tout. Et depuis toujours, j'adore Jean Ray, qui est à mon avis un des plus grands écrivains fantastiques du XXe siècle. Donc, vraiment, sans conteste possible, un type hyper prolifique, une drôle de destin, qui a fait croire qu'il avait une vie aventureuse, qu'il était un drôle de type, infréquentable, alors qu'il n'a jamais quitté la ville de Gland. Où il était prisonnier de son fauteuil et de son truc pour écrire des mots. Il a écrit 6500 textes, un type fou. Et il a quand même développé un fantastique totalement unique en son genre. Hein. C'est un mélange de fantastique allemand et anglais, alors que lui était belge. Et notre rêve, c'était si un jour on pouvait faire un genre. Et pour les 20 ans, on s'est dit on va tenter. C'est très compliqué de faire genre pendant des années. Les héritiers étaient introuvables, etc. Mais on nous a indiqué qu'il y avait un cabinet d'avocats qui détenait des droits, tout ça. Et on s'est lancé. On a fait une proposition. Et voilà. Et de fil, on se retrouve avec, pour nos 20 ans, édité un genre. On se fait plaisir. À la fois, on sort un très grand livre, je pense. Et puis, en plus, on se fait plaisir. On va faire un livre illustré. Là, on est en train de faire des devis pour voir si on peut pas faire un beau livre lié. Enfin, voilà. On essaie de pousser jusqu'où on peut aller dans le plaisir de la réédition. Et c'est un peu ça notre objet. Alors, parfois, ça va être des petits livres, hein. Le livre de Jean-Marie Laclavetine, c'est un tout petit livre, qui fait 6 euros. Le Jean Ray, ça va être sans doute un très beau livre, 350 pages, voilà. Mais c'est ce jeu de rééditeur qui est tenter le coup. Et puis, alors, là, on cite Jean Ray, qui est quand même archi connu, d'hôtel qui est très connu, mais parfois ça consiste aussi à aller chercher des gens complètement oubliés. C'est-à-dire d'aller piocher. Alors moi, c'est mon grand jeu, c'est d'aller fouiller dans les vieilles collections, de tirer un fil et puis de découvrir qu'il y a une pelote. Voilà. Et ça, c'est un jeu absolument passionnant. Vous voyez, derrière moi, on peut pas le voir à la radio, mais j'ai une étagère pleine de livres qui mériteraient d'être réédités parce que la gloire est passée à côté ou ils ont été oubliés. Voilà. Et puis, la machine éditoriale est une machine infernale qui fabrique de la nouveauté en permanence. C'est une sorte de compresseur délirant qui a tendance à tout broyer et aux belles choses qui passent inaperçues parce qu'elles ne sont pas arrivées au bon moment, parce qu'elles sont oubliées, etc. Voilà. Et c'est le rôle des petits éditeurs, à mon avis, ce qui était le rôle avant des maisons de poche, ils ne le font plus, de faire ressortir comme ça des textes qui ont parfois dû attendre du temps, mais qui parlent, qui ont quelque chose à nous dire, même s'ils ont été écrits il y a très longtemps. Cette année, on a ressorti un livre d'un Écossais qui s'appelle Hamilton, Booker Hamilton, qui est un auteur qui est mort en 1968, qui n'a fait qu'un seul roman dans sa vie, un livre absolument stupéfiant. Et nous, c'était le plaisir de dire, on va ressortir ce livre qui n'a jamais eu d'édition en français en grand format, parce que il a beau avoir plus de 50 ans, le livre est capable de créer un choc esthétique vraiment fort. Ouais. C'est un peu ça notre philosophie de la réédition. Le plaisir d'abord, et d'imaginer que le plaisir qu'on a eu de redécouvrir peut coïncider avec un imaginaire, au début qui est imaginaire. Alors,
nos auditeurs pourront en savoir plus sur les éditions de l'Arbre Vengeur et découvrir le catalogue en allant sur le site, qui est très très bien fait. Concrètement, au niveau distribution,
On a une petite maison, mais on a quand même une diffusion nationale. On fait partie de la galaxie des petits éditeurs en France. Il y en a beaucoup, beaucoup. On n'est pas des micro-éditeurs. C'est-à-dire qu'on est diffusé par Harmonia Mundi. Donc, on est dans toutes les librairies. On a des représentants. Voilà. On n'est pas des bricoleurs. C'est-à-dire que moi, je fais pas des livres pour qu'ils soient dans 15 librairies. Même si ce serait aussi, honnêtement, on a commencé comme ça. On a quand même une diffusion. On est présent dans des centaines de librairies. Alors, faut pas se raconter d'histoire non plus, Il y a des libraires qu'on n'intéresse pas, parce qu'on est un peu bizarre, on est un peu insaisissable. Hein. Et puis il y a d'autres libraires qui vont nous aimer, nous défendre, parce qu'ils ont trouvé de l'originalité chez nous. Voilà. On a une image, on a un ton particulier, qui ne coïncide pas avec ce qui se fait de façon forte. Hein. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du roman psychologique, on ne fait pas du roman sentimental, on ne fait pas du feel-good book, on ne fait pas du young adult et des trucs comme ça. Voilà. On a notre ton, on est peut-être en train de devenir des vieux schnocks, ça on ne sait pas, au bout de 20 ans, on ne sait pas, mais on essaie quand même et on est présent, donc on est présent en Belgique, en Suisse, au Canada, voilà. Mais dans des proportions très modestes, hein, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des gros tirages, hein, mais de temps en temps, il y a un livre qui marche. Voilà. C'est celui qui va nous permettre d'éditer les 9 autres qui ne marchent pas.
Bon, en tout cas, on restera à l'écoute et on s'informera de vos publications. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver pour parler.
J'espère ardemment.
Pour parler de Jean Rey, par exemple, avec grand plaisir. Écoutez,
Jean Rey, c'est octobre, enfin octobre ou novembre. Et ça va être. C'est aussi une façon. On s'est mis pour nos 20 ans plein de. J'en termine avec ça, mais. On a décidé cette année-là, au cas où ce serait la dernière, de sortir plein d'auteurs qu'on aime bien depuis longtemps. On va sortir Alain Fleischer. Jean-Marie Lafilaptine, c'était aussi cette idée-là, de sortir un auteur qu'on aime beaucoup. Et ouais, ça fait des années que j'aurais pu lui demander. Et de sortir comme ça un sort de petit feu d'artifice des auteurs qu'on aime beaucoup. Et puis comme ça, au moins, on l'aura fait.
Voilà, ça s'appelle les éditions de l'Arbre Vengeur. Allez voir sur le site, allez voir dans les librairies. Les couvertures se repèrent parce que je le dis, elles sont vraiment magnifiques. Merci beaucoup en tout cas de cet entretien et à une prochaine fois.
Merci Alexandrie.
Radio Libertaire, Radio Libertaire, Radio Libertaire, Radio Libertaire.
te lo vieta. Tutto questo è immensità. E lavorare per 10 ore, compiere sempre scelte di cuore, chiedere scusa per un errore. Anche questa è immensità. Tutta la realtà è immensità. Come il sogno poi si dissolverà. Da domani inizierà una nuova immensità. Da domani. Da domani. Da domani.
Radio Libertaire, c'est toujours 89,4 MHz, c'est Idéo et Débat. Et comme je vous l'ai annoncé en début d'émission, il y a au programme des sorties d'une foot un film particulier, puisqu'il est inspiré d'un roman d'Amanda Sterz, et c'est elle-même qui a porté à l'écran son roman Les Promesses. Alors c'est toujours compliqué quand on adapte un ouvrage de fiction et qu'on met des images dessus, parce que à chaque fois c'est la même chose, c'est-à-dire que quand on lit le livre, on se fait son propre cinéma intérieur, et quand on voit ensuite à l'écran, on est souvent déçu. Alors là, le film d'Amanda Sterz, qui sort donc le 9 août et qui s'intitule Les Promesses, est un film avec Pierre-Francesco Favino, avec Kelly Reilly, avec Jean Reno. Et il reprend le sujet du roman. Et si, au départ, moi j'étais un petit peu réticente, parce que justement j'avais mis des images sur les baux d'Amanda Sterz, j'ai été assez vite prise par la construction du film. Construction temporelle un peu atypique, avec un temps qui se déroule en spirale entre le passé et le présent, le fait de faire vieillir les personnages, et puis également une très très belle histoire d'amitié masculine. Alors si vous avez aimé le roman d'Amanda Sterz, je vous conseille d'aller voir le film qui paraît donc le 9 août, ce n'est pas un livre, qui sera sur les écrans le 9 août, ça s'appelle Les Promesses, c'est d'Amanda Sterz, et c'est bien sûr tiré de son roman.
We visualize time as a straight line.
Let's swim.
But it's a spiral. We can be who we were again.
Did I introduce you to my friend Laura?
My wife!
Looks like you two clicked.
She's very interesting. Ugly, but interesting.
I know. Very ugly.
Don't worry, my friend. Everything's going to be all right.
Let's go to a club.
Let's go to a fucking club.
How are you?
I got divorced.
I mean, how are you today?
Well, I got divorced today.
are not always sad, just as we are not always happy.
We were never able to say how we felt about each other, but this is how I know we felt a lot.
I would never want to go back to the beginning.
I would.
Voilà, on arrive à la fin de cette émission d'idéaux et débats. La prochaine sera une émission un peu particulière puisque nous ferons des détours dans le domaine de la musique et de la chanson dans une émission un peu spéciale de milieu du mois d'août. Et puis on se retrouvera très vite pour la rentrée littéraire avec une très très belle rentrée puisque nous aurons la chance de pouvoir parler avec Hernán Díaz. Hernán Díaz, c'est lui qui a eu le prix Pulitzer aux États-Unis cette année pour un roman intitulé Trust et dont la version française va paraître aux éditions de l'Olivier. Et nous avons eu la chance de le rencontrer et de l'interviewer en anglais. Donc vous pourrez entendre cet entretien qui sera bien sûr traduit et doublé dans la première émission de rentrée littéraire. On retrouvera également Agnès de Sarthe pour encore un livre paru aux éditions de l'Olivier, décidément très fort cette année. Et donc ce livre d'Agnès de Sarthe s'intitule « Le château des rentiers ». Il y aura d'autres surprises dans l'émission « Idéaux et débats ». En tout cas, je vous promets qu'il y aura un très très beau programme d'ici là. Restez à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz.
Radio Libertaire, Radio Libertaire.
Conscrit qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître, pas vrai maître.
Alors, je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, livre et combat.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le greffe comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mère. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse autour du garrot.
M'inquiète les gars, il n'y a pas beaucoup d'air.
c'est de la saloperie. Quand respire, je regarde les HLM et les usines en bas. Je regarde les HLM.
Je regarde les HLM
et les usines en bas. Tu sais, les pinguettes le soir, les gars, ça me fout c'est cafard. Ça me fout
Je le sais, Booba, l'appart est petit. Il rétrécit pas, c'est toi qui grandis. Ou bien c'est tes gestes, chaque fois la tuile. Regarde ta veste, t'as renversé l'huile. Et la poivrière dans le chocolat ne prend plus le chat pour une panthère. Les biscuits de Médor pour de vrais biscuits et les courts-circuits pour des météores. va-t'en jouer dehors. Va-t'en jouer dehors. Et le trottoir tiblon n'est pas assez grand. Qu'avec ton ballon, tu gênes le client. Et tu dis aux autres, le terrain frisbee, pour les cosmonautes, c'est pas chez Bibi. Ici c'est la terre, faut pas d'amalgame. Pour jouer au corsaire, y'a le terrain vague.